Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour Pierre.
Au programme, sans politique bien sûr, de votre émission ce samedi, un quatuor de chefs d'État en Ukraine. Et après, visite historique, disent les Occidentaux. Provocation, dit la Russie. Pas trop tôt, disent les Ukrainiens. La guerre continue, mais les visites symboles se multiplient. Boris Johnson encore hier soir. À quoi bon? Pourquoi faire? Quelles conséquences? Question posée dès le début de cette émission. Les proches de Samuel Paty portent plainte contre l'État, l'Intérieur et l'Éducation nationale visés pour négligence face aux menaces proférées à l'encontre de l'enseignant avant son effroyable décapitation il y a un an et demi. Autre violence passée presque inaperçue, celle du meurtre tout aussi terrible d'Alban Gervaise à Marseille. Ce médecin militaire tué devant ses enfants il y a un mois par Mohamed El, 23 ans, non connu du renseignement, mais qui souffrait apparemment de troubles psychologiques. Certains parlent d'omerta dans la presse, d'autres confessent un loupé, nous en parlerons. Et puis dans la série, Boris Johnson fait encore parler de lui. Après avoir échappé au vote de défiance au Parlement, il veut concentrer les demandeurs d'asile britanniques au Rwanda. Oui, j'ai bien dit concentrer. Et remettre en doute l'accord post-Brexit. Deux mesures qui choquent. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Et cette visite historique, donc pour commencer, la France, l'Italie, l'Allemagne, avec la Roumanie en visite officielle à Kiev après des semaines de tergiversation, visite dont certains déplorent le retard, qui intervient alors que l'Union européenne donne le go déjà à la candidature ukrainienne, dossier examiné la semaine prochaine. À peine posé le pied sur le sol ukrainien, ce quatuor Macron, Scholz, Draghi et Ioannis s'est vu critiqué par les Russes, bien sûr, par les Ukrainiens qui doutent encore, par les opposants politiques qui ne voient là qu'un déplacement électoraliste. À quoi bon ce déplacement, Charles Villeneuve ?
Ben, je pense qu'il est central et stratégique, ce déplacement. C'est un geste politique qui permet à l'Europe de reprendre la main. Pour moi, c'est symbolique, surtout de cette reprise en main par rapport aux Américains, par rapport à Moscou, tout autant. Ce sont les trois pays fondateurs, vous l'avez dit, de l'Europe, qui ont débarqué en Ukraine, accompagnés d'un pays d'Europe centrale. Mmh. Et le signal politique de cette Europe globale, inclusive, plus une Europe centrale, c'est de dire à l'Ukraine, vous êtes des nôtres. Vous êtes ancrés à l'Ouest, n'en déplaise à Poutine, pour qui ce n'est pas une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il a réagi très rapidement. Vous le direz certainement tout à l'heure. Et la visite précipitée de Boris Johnson à Kiev hier, alors que les quatre Européens avaient à peine tourné les talons, montre au passage que l'Europe a visé juste et a volé la vedette au Royaume-Uni.
Et effectivement, la réaction notamment du Premier ministre russe Dmitri Medvedev, la voilà. Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses, de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev, utilité zéro, mais cela ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix, l'horloge tourne. Voilà ce que dit Dmitri Medvedev. Catherine Ney.
Oui, on voit quand même que cette visite a beaucoup contrarié la Russie, parce que les trois pays fondateurs, c'est quand même une sacrée puissance. Le PIB de la Russie, malgré le pétrole et le gaz et toutes ses ressources, est inférieur à celui de l'Italie. Et les trois pays ensemble, je mets la Roumanie à part, mais c'est quand même, ils ont plus de 210 millions d'habitants, alors que la Russie en a 140. Vous voyez ? Donc c'est quand même une force, et ça veut dire quelque chose. Et pour que le Medvedev réagisse comme ça, ça veut dire que à la fois l'Europe soutient l'Ukraine pour qu'elle ne cède pas, et ça c'est nouveau. Et d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, qui jusqu'ici disait qu'il ne faut pas humilier la Russie et qui n'était pas compris par une moitié de l'Europe et par les Ukrainiens, là, on peut dire qu'il a changé, puisqu'il dit même que quand on aura changé, quand la paix sera revenue, on pourra négocier. Donc, pour les Russes, c'est un chiffon rouge, parce qu'il a changé de discours. Et ça veut dire que maintenant, la bagarre militaire, ça va continuer. Le fait que Macron, sûrement ému par les images qu'il a vues de ces villes dévastées par les Russes, a fait qu'il donne à nouveau six canons César supplémentaires. Ça veut dire qu'il s'engage encore plus dans la guerre et que là, on est parti quand même pour un accroissement de la guerre. Et que la paix, elle viendra forcément un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite.
Michel Cotta.
Moi, ce qui m'a simplement une impression comme ça, j'ai trouvé que ces hommes politiques, chefs d'État, sous ces arbres verts, dans ce palais superbe, on se dit, c'est extraordinaire, quoi. Le pays est en grève, le pays est en guerre, partout il y a des morts. Et cette image de ces chefs d'État unis, quoi, dans ce, était, je trouve, vraiment quelque chose que je retiendrai de.
Mais dans quel sens?
Est-ce que vous êtes beauté presque. Non, mais ouais. Parce que c'est dans la beauté du paysage d'un pays en guerre, c'est quand même les trois personnes les plus influentes de l'Europe qui viennent ensemble parler ensemble et dire ensemble leur soutien.
Oui,
et alors, ça, c'est alors, je ne sais pas si c'est une journée historique, comme a dit Mario Draghi, mais enfin, c'est quand même une journée importante. Et d'un autre côté, je ne suis pas sûre que vraiment on peut dire que Emmanuel Macron ait changé de langage. Je pense que lorsqu'il avait dit, en effet, qu'il ne fallait pas humilier la Russie, c'est-à-dire qu'il fallait lui laisser une porte de sortie, ça a été très mal compris et il a senti que c'était très mal compris. Mais autrement, il n'a pas changé de langage puisqu'il dit bien, à un moment donné, on sera obligé d'aller vers la négociation.
Mais il dit cette fois-ci quand l'Ukraine aura gagné.
Voilà. Oui. Oui, tout à fait. On est d'accord.
Et Medvedev dit ça ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix. Oui. L'horloge tourne, mais utilité zéro.
Oui. Mais voilà. Je veux dire, en tout cas, ça veut dire qu'il a toujours pensé qu'à un moment donné, il fallait aller à une négociation. Il l'a redit et apparemment, le président l'a compris.
Mais ça repousse quand même l'échéance.
D'accord, mais ça ne règle pas le problème que d'un côté, il y a le symbole de cette visite, et de l'autre côté, pardon, mais je reprends les phrases de Medvedev, l'horloge tourne, la guerre continue.
Non, mais c'est bien pour ça que le président de la République française a précipité cette affaire. Parce que ses dernières conversations téléphoniques, notamment avec Poutine, je pense profondément pour en avoir parlé avec quelques diplomates, notamment français, mais pas seulement, qu'il a compris que Poutine était dans la confrontation et qu'il irait jusqu'au bout dans la confrontation. Qu'il utiliserait pas seulement son artillerie, ce qui est le cas à l'heure actuelle dans le Donbass, et qui met en difficulté, en grande difficulté, l'Ukraine. On reviendra peut-être là-dessus, Pierre. Mais parce qu'il utilise toutes les armes, y compris l'arme du blé, des céréales, l'arme de l'énergie. Il a coupé quoi ce matin ? Et Catherine m'en parlait encore avant l'émission, il a coupé le gaz à la France.
C'était sa réponse hier.
C'est la réponse. Hier. Et le tweet ironique de Medvedev, qui veut toujours faire oublier qu'il est le fils d'une bourgeoisie qui est soupçonnée de toute façon de complicité avec l'Occident à Moscou, en Russie. C'est une vraie réaction. C'est-à-dire que ça leur déplaît profondément ce qui s'est passé, les pays fondateurs. Elle a raison, Catherine, quand elle rappelle le PIB de la Russie en retard même sur l'Italie. Et donc, c'est pas rien sur le plan politique. C'est d'autant pas rien que c'est fait en indépendance totale avec Washington.
Que je voulais dire, voyez, on se dit que va faire la Russie. Alors c'est vrai que Macron envoie 6 canons, on va armer l'Ukraine, mais d'autre côté, il y a une Russie qui est surarmée.
Alors justement, donc, la question
mais moi, je vais vous dire, attendez, avant de venir à l'armement, moi je crois qu'il s'est passé un événement à Saint-Pétersbourg où c'était le Davos habituel, où il n'y avait évidemment pas d'Européens et que là, il y avait des Africains, des Asiatiques et puis même le représentant des talibans d'Afghanistan, vous voyez, qui était très photographié. Mais en attendant, ce qu'on a senti, bon, alors évidemment, Poutine est venu dire que c'était il fallait mener cette opération militaire spéciale. Elle était forcée, difficile sans doute, mais forcée et nécessaire. Et que lui ont répondu les acteurs économiques? Il y a d'abord une femme qui est gouverneure de la Banque centrale qui a dit « Il est évident pour tout le monde que cela ne pourra plus être comme avant. » Voilà, elle a très peur. Elle dit « Pendant, la Russie va perdre pour longtemps... »
La Banque centrale russe, du coup.
Oui, va perdre pour longtemps sa place dans la division internationale. Bon, et quand Poutine dit il faut maintenant, eh bien, ce qui nous manque, ce qu'on ne peut plus recevoir comme pièces détachées, on va le fabriquer. Et là, quelqu'un lui a dit l'isolement, un grand patron du groupe Prostes, qui était un ami, lui a dit l'isolement, y compris technologique, ainsi que la tentation de tout faire par soi-même, est une route qui ne mène nulle part. Alors on dit, regardez, ça va bien parce que le rouble est remonté. Mais il est soutenu artificiellement et ça coûte très cher et ça pénalise les importations et les exportations. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même...
Il est
sur la brèche et il voit bien que son pays est en train quand même de beaucoup souffrir.
Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve, les grandes voix continuent juste après une première pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneau.
Avec Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Michel, vous vouliez revenir sur ce bras de fer que continue de jouer Vladimir Poutine avec, dans la balance, le gaz, le pétrole, la crise alimentaire et de l'autre côté, évidemment, les sanctions économiques.
Voilà. C'est-à-dire qu'on en reste quand même toujours à cette interrogation sur les sanctions économiques. Hein. On est d'accord, on les multiplie, c'est la cinquième vague. Mais ça retombe beaucoup, beaucoup sur l'Occident. Et on le voit, aussi. d'autant qu'il utilise tous les moyens pour accentuer ça. C'est-à-dire qu'on dit effectivement un mot, on s'en va voir le président de Kiev et crac, on vous coupe le jus. Quoi. Oui. C'est pareil sur le blé et sur l'Afrique. Mais surtout, il faudrait à un moment donné trouver autre chose que ces sanctions qui finalement pénalisent nous d'abord, il faut bien dire, parce que la résilience russe est absolument formidable.
Mais eux, quoi, par exemple ?
Eux, ils se croient, par exemple. Eux, ils sont dans leur tête, dans la tête des parents, des jeunes qui ont 40 ans maintenant, et ils sont à Stalingrad. C'est-à-dire, ils sont seuls à lutter contre le monde entier, à manger des rats, s'il le faut, comme ils l'ont fait à Stalingrad pendant les guerres, et ils sont prêts à se serrer la ceinture, mais il y a un nationalisme russe qui s'exprime quand même.
Écoute, on ne l'entend pas beaucoup. Hein. C'est Poutine qui dit ça. Mais
on n'entend pas le contraire.
Ceux qui voudraient parler sont soit mis en prison. Je veux dire, la voix populaire, on ne l'entend pas.
Oui, enfin, 80% des gens sont pour.
En tout cas, ce qu'il y a de vrai par rapport à ce que tu soulignes, le nationalisme russe, il faut savoir que ça n'a pas affecté sa réserve de roubles à Poutine. Parce que là, les salaires, notamment des combattants et des plus sophistiqués des combattants, puisque c'est une grande bataille d'artillerie qui est en train de se dérouler. Tu parlais de Stalingrad, comme à Stalingrad, puisque c'est le point névralgique de l'armée russe. Il ne faut pas l'oublier. Il verse 150 000 roubles aux combattants et pour chaque mort, chaque famille, c'est 5 millions versés par mort. Quasiment toute la Sibérie est volontaire pour aller combattre en Ukraine. C'est ça la réalité, c'est pas de l'information, si vous voulez, secondaire, c'est une information primaire qui vient de très très bonnes sources, de la part d'oligarques notamment.
Mais volontaires
qui
pour
sont
perdre
assez
la
proches.
Vie et toucher l'argent. Parce que là, on en vient
pour défendre la patrie.
Non.
Bah oui, mais...
Non, il ne faut pas caricaturer.
Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Pour que ça ne soit pas mal compris.
C'est une vraie guerre. Et c'est une guerre où, de toute façon, le soldat russe se comporte comme un soudard qu'il a toujours été, de toute façon, dans les guerres. Parce que se confronter à l'armée russe, c'est vivre l'enfer. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que quand vous avez tous les témoignages, notamment de ce qui s'est passé à Alep, en Syrie, où la moitié de la ville n'existe plus...
Ou à Grozny.
Hein, ouais. C'est le même général, d'ailleurs, qui conduit la bataille du Donbass,
Dvornikov.
Et donc... C'est ça. Oui. Or, à l'heure actuelle, la guerre en Ukraine a pris la forme d'une bataille extrêmement féroce d'artillerie où la Russie gagne régulièrement du terrain grâce à la supériorité de sa puissance de feu. Et sans une augmentation importante et rapide de l'assistance militaire occidentale, le sort de l'Ukraine dépendra à grande partie de ses livraisons, de ses armes lourdes et de leur quantité. Et vous savez que leur demande est terrible puisque... Le conseiller de défense de Zelensky, Podolyak, a publié dans un tweet sa demande. C'est 1000 obusiers calibre 155 mm. Hein, c'est le même calibre, évidemment. C'est le calibre autant, le calibre que les Césars. 300 lance-roquettes multiples, 500 chars. Vous savez que nous en avons 222 dans l'armée française, 222 chars Leclerc. Il demande là, si vous voulez, une assistance de 500 chars. 2000 véhicules blindés et 1000 drones. On est loin du compte. La liste de ce que les Occidentaux fournissent est bien en deçà de ces demandes. C'est pour ça que la situation militaire est difficile à l'heure actuelle pour l'Ukraine.
On voit bien en effet que malgré tous les commentaires et malgré les kilomètres perdus d'un côté puis rattrapés de l'autre, il y a un grignotage. Il y a un grignotage des Russes sur le Donbass. Je veux dire,
ils avaient promis un Grozny, là, en l'occurrence.
Et là,
c'est fait.
C'est le même schéma. Et au fond, la question se pose toujours des buts de guerre. Est-ce que Poutine considérera qu'il a gagné la partie s'il a le Donbass ou est-ce qu'il ira plus loin ? Est-ce que disent les Ukrainiens ? Est-ce que ne pense pas la majeure partie des experts ?
Il ira à la reconquête de Kharkiv et il ira à la conquête d'Odessa.
Voilà, mais il restera sur l'Est, mais... sauf que ça fait peur à tout le monde, et sauf que ça fait peur à tous les pays voisins, etc. Donc, on est quand même dans un climat où, même si on se dit qu'il va s'arrêter au Donbass, se dit « oui, mais s'il continuait ».
Petit mot quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, de Xi Jinping, qui est apparu. Oui. Il a rappelé son soutien à la Russie en matière de souveraineté et de sécurité en milieu de semaine. Est-ce que c'est préoccupant ?
Oui, je trouve qu'en tout cas, ça fait... Oui, je trouve que c'est la première fois qu'il le... qu'il le dit comme ça.
Oui, c'est la première fois qu'il sort du
bois. La première fois qu'il le dit comme ça, c'est la première fois.
Non, il était déjà
sur l'aide économique. Oui, non, c'est la première fois qu'il précise.
Pas de manière aussi précise.
Que sur l'aide économique. Alors, est-ce que il y a deux raisons. La première, c'est que effectivement, il a quand même peur d'une action des Américains sur Taïwan.
Biden l'a menacé.
D'où la révérence à la souveraineté.
Oui.
Et parce qu'il y a quand même un accord. Et donc, c'est quand même la première fois qu'il dit, contact économique, et deux, qu'il réitère quand même son appui à Poutine en ce qui concerne la souveraineté du territoire.
Mais il y a une nuance, Charline, dans l'appui chinois.
Je t'en prie.
C'est que, oui... Il y a une nuance qui n'est pas négligeable, Michel. Mmh. C'est qu'il n'aime pas, il n'apprécie pas le désordre général. Et il considère, et il l'a fait savoir aussi, que la guerre en Ukraine, et par rapport à tout ce qui se passe avec les conséquences économiques, l'arme du blé, des céréales, l'énergie, contribue au désordre général.
Catherine Ney.
Non, ce qui va être intéressant, puisque tout est la faute de l'Occident, dans la bouche de Poutine, c'est voir si la promesse qu'il a faite à Macky Sall, le président de l'Union africaine, va être respectée. Il lui a dit qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que les bateaux viennent se charger à Odessa et que lui ne ferait rien pour attaquer.
Oui.
Bon, mais d'abord, il faut déminer. Et après, si c'est déminé et que si des navires viennent charger, d'ailleurs, il faudrait que les assurances veuillent bien les assurer, vu le danger, vous voyez, pour recharger. Est-ce que ça... Et Lavrov, qui manque comme un arracheur de dents, dit, mais n'interviendrons pas. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'on peut croire Poutine ? Parce que là, le président africain lui a dit, vous savez, ce qui menace, c'est la famine. Si on n'a pas d'engrais, si on n'a pas de blé, c'est toute l'Afrique qui peut être déstabilisée. Et est-ce qu'il s'en fout ou pas ? Ou est-ce qu'il prend ça en compte ? Parce que ça, on ne le sait pas encore. On aura une réponse.
On en parlera la semaine prochaine parce que effectivement. Et alors là, dans un instant, on parle de Samuel Paty. 10h29, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. À tout de suite.